Charles Nicolle, le double. J'avais un sosie, ce n'était pas douteux qu'il existât un homme qui me ressemblât à un tel point que mes plus intimes amis, et les siens naturellement, pouvaient nous prendre l'un pour l'autre. Et c'était tous les jours de nouvelles méprises, un éternel quiproquo. Je voyais par exemple un inconnu venir à moi, le visage souriant, la main tendue. « Vraiment, comment ça va ?»« Vous faites erreur, monsieur, » répondais-je. « Je ne suis pas monsieur Frémont. »« Voyons, mais non, vous vous trompez. »« Oh, monsieur, je vous demande pardon. »« Oh, c'est que vous lui ressemblez étonnamment. » « Oh, vraiment, c'est extraordinaire !» Et l'on me regardait encore, haletant, hésitant, et on s'éloignait, l'air peu convaincu. Par contre, il arrivait que des gens, des amis, me reprochaient d'être passé près d'eux en feignant de ne pas les voir. « Ah, ça, me disait-on, mais pourquoi t'obstinais-tu ? L'autre jour, à ne pas nous reconnaître. Et j'avais beau jurer que je n'étais pas sorti ce soir-là, où l'on croyait m'avoir vu et que l'on s'était trompé. Oh, on haussait les épaules. De ce monsieur Frémont, je ne savais rien du reste, sinon qu'il devait être un homme fort étendu. Du moins, j'en augurais ainsi par les... Salut, les sourires aimables, les gestes d'amitié, chaque jour, dans la rue, me donnaient de nombreux inconnus. J'avais, comme bien l'on pense, une grande envie de le connaître. Eh bien, j'ai fini par le rencontrer, et ce jour-là, j'ai éprouvé une des plus violentes émotions de ma vie. C'est peu de dire que il me ressemblait. Il était en tout semblable à moi. Le visage, la tournure, la démarche étaient absolument les mêmes. Et c'est vous aussi, sans doute, puisque nous étions habillés pareillement. Certes, je ne suis pas superstitieux, et je n'ai pas penchant pour le surnaturel. Pourtant, je ne puis me défendre d'une espèce d'émoi en voyant venir vers moi un autre moi-même. Quant à lui, il ne parut pas s'en apercevoir. Il me frôla presque en passant, et je le vis s'éloigner sans qu'il se retournât. Et bientôt après, je le rencontrai de nouveau, et cette fois, il me vit. Nos regards se croisèrent, mais il ne manifesta aucun étonnement. Il me sembla même qu'il souriait un peu en passant près de moi. Enfin, nous fîmes connaissance. Assis sur un banc dans un coin retiré du jardin de Luxembourg, que ce jour-là, un sombre et pluvieux jour d'automne, le temps maussade faisait presque désert, je rêvassais un livre à la main, lorsque le bruit de voix me fit soudain tressaillir. Qu'on juge de ma surprise, c'est ma propre voix que j'entendais, que j'avais cru entendre. Et j'étais sûr, cependant, de n'avoir pas parlé. Mais aussitôt tout s'expliqua. Ayant levé les yeux, j'avais aperçu mon sosie. Il était là, debout, devant moi, et il me regardait en souriant. « Monsieur, dit-il, je suis bien aise de vous rencontrer. »« Oh, monsieur Frémont, n'est-ce pas ? » fis-je en me levant. « Oui, lui-même, Est-il besoin de nous présenter l'un à l'autre? Grâce aux petits désagréments que nous avons chaque jour une stupéfiante ressemblance, nous nous connaissons depuis au moins deux noms. Oui, et de figure, ajoutai-je. Et de figure aussi. Oui, nous le connaissons, mais pas assez à mon gré. Par le plus vif désir d'entrer en relation avec vous, sincèrement, je crois qu'il y aurait grand intérêt pour nous mieux savoir que nous sommes. Ces précautions, ces relations du reste ne pourraient manquer d'être fort agréables, car enfin, nous devons bien un peu aussi nous ressembler moralement. Vous croyez? Mais oui! Sinon, il faudrait en conclure que notre être physique ne peut fournir la moindre nuance et indication sur la sensibilité propre, sur nos esprits, notre caractère, enfin, tout ce qui est en rien ou révélateur de notre être intime. Bon, c'est une évidente absurdité. Certes, répondis-je, bon, il faut renoncer à faire la moindre idée d'un homme sur sa physionomie et ses manières. Nous nous sommes faits pour nous comprendre. Oui, j'avais tort, je l'avoue, quand je voulais prendre en sous-main des renseignements sur vous. Et il se mit à rire. Des renseignements sur moi? En voilà un aveu que je retiens. Vous voulez savoir si votre sosie était recommandable? Non, du tout, je. Et s'il n'était pas plus homme à vous jouer par quelque méchant tour? Mais non, non. Allons, ne vous défendez pas. Je vous avouerai que je m'en suis pas resté à l'intention, moi. L'enquête dont vous parlez, eh bien, je l'ai faite, moi, l'enquête. Et elle m'a appris qu'aucun lien de parenté n'existait entre nous, et que nos pays d'origine sont d'ailleurs fort éloignés l'un de l'autre. Et cela rend tout à fait inexplicable notre prodigieuse ressemblance. Oui, c'est vrai qu'elle est prodigieuse, en effet. Je me demande comment la nature, variée dans ses créations, a pu nous faire si semblables en tout. Pour que deux hommes marchent comme nous, absolument de la même manière, quel rapport cela suppose dans leur structure, leur confrontation, leur caractère? Et nous avons la même voix. Les traits, l'expression du visage sont les mêmes à s'y méprendre. Nous sommes tellement pareils qu'une personne connaissant l'un de nous, nous ayant vus côte à côte, ne saurait auquel s'adresser. C'est inconcevable. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé à qui pouvait être due une pareille ressemblance? Oh, ma foi, je ne vois guère que le hasard. Le hasard seul, c'est impossible. Écoutez, reprit-il après un moment de silence, il y a plus. Il y a bien plus. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une enquête sur vous. Eh bien, je l'ai poussée assez loin, cette enquête. Elle porte sur votre vie passée. Et je sais qu'il y rentre bien des destinées, des étranges analogies. Que voulez-vous dire, m'écriai-je? Ben, rien de plus pour le moment, mais bientôt, je l'espère, nous pourrons parler de cela longuement. Vous apprendrez alors des choses qui vous surprendront très fort. Des choses qui feraient croire qu'il existe entre nous un lien mystérieux. Et si vous me trouvez absurde, insensé, je parlerai comme vous lire comme Hamlet. Le ciel et la terre, Horatio, cachent plus de mystères que ne rêve votre philosophie. Jubeau le pressait de questions, je n'en puis plus obtenir davantage sur ce sujet. Alors nous parlâmes d'autre chose. Notre entretien du reste se poursuivit longtemps encore. Nous y trouvions, du reste, un tel attrait que nous ne pouvions pas nous décider à nous quitter. Pour moi, il me semblait que je parlais avec un très vieil ami, très intime, retrouvé par hasard après une longue séparation, un ami que j'aurais connu à fond et qui, avec cela, aurait eu ma tournure d'esprit, mon penchant à philosopher, et sur toute chose, des idées un peu différentes des miennes. On comprendrait, sans effort, à demi-mot, et la phrase qu'avait commencé l'un, l'autre pouvait l'achever, sans peine. Peut-être se fera-t-on une idée du charme singulier de cet entretien, quand j'aurais dit qu'il m'arriva plusieurs fois d'entendre mon interlocuteur exprimer avec une exactitude saisissante des idées qui, au moment même, me venaient à l'esprit. Enfin, lorsque la nuit tombante, les gardiens nous poussèrent en quelque sorte à tarder vers une grille du jardin que l'on allait fermer. Je crois bien que nous avions un peu perdu l'exacte notion de notre personnalité. Mais le charme s'est dissipé subitement dès que nous nous trouvâmes sur le trottoir dans l'agitation de la rue qui commençait à s'éclairer. « Quand nous reverrons-nous » dit-il en me tendant la main. Je pensais alors que j'avais pour sosie un homme fort aimable, un homme que je sentais droit et bon, d'esprit curieux et délicat, et vers lequel m'entraînait une très réelle sympathie. « Mais quand vous voudrez, répondis-je, le plus tôt possible. Alors, faites-moi le plaisir de venir déjeuner chez moi un de ces jours. Oh, ma foi, si vous voulez. Oui, au mercredi, par exemple. Pensez-vous pouvoir venir mercredi à midi ? Mercredi à midi, c'est entendu. » Je pris la carte qu'il me tendait et nous nous séparâmes sur une chaleureuse poignée de main. M. Frébon habitait dans un paisible quartier de la rive gauche, une petite maison d'assez belle apparence, qu'on voyait s'élever, entourée de grands arbres, à quelques distances de la rue. Ayant sonné, j'examinais longuement à travers la grille la demeure de mon sosie, et je l'enviais d'avoir su réaliser un de mes rêves. Posséder une maison comme celle-là. Enfin, un pas lourd fit crier le gravier de l'allée. La porte s'ouvrit à demi, et dans l'entrebâillement parut une femme déjà âgée. Cette femme, à ma vue, resta muette de saisissement. Elle me considéra avec des yeux hagards, et je pus croire qu'elle n'avait pas toute sa raison. Lui ayant néanmoins présenté ma carte, je la vis se jeter brusquement, se jeter en arrière comme prise d'épouvante. Enfin, elle poussa un cri au premier mot que je dis, et elle se sauva à toutes jambes en faisant des signes de croix. Péniblement impressionnée, saisie d'une vague inquiétude, je pénétrai dans le jardin. Mais pourquoi cette femme, en me voyant, avait-elle paru si terrifiée? Et pourquoi aussi, alors qu'on devait m'attendre, la maison avait-elle toutes ses persiennes closes? Un affreux soupçon me traversa l'esprit. Dieu, pensais-je, serait-il arrivé un malheur? Mais un homme, un jardinier à en juger par sa tenue, vint à ma rencontre, et arrivé à quelques pas de moi, il s'arrêta comme frappé de stupeur, et d'une voix grave, d'une voix qui me fit frissonner, il dit « Monsieur, que nous voulez-vous ? » Mais dis-je, je désire voir M. Frémont. Il ne répondit pas tout de suite. Il continua de me dévisager et je pus croire qu'il allait aussi s'enfuir. J'attendais plein d'anxiété. Enfin, il prononça ces mots que je redoutais, que je sentais inévitables. Mais M. Frémont est mort, monsieur. Mon cœur, alors, se resserra douloureusement, et comme si j'avais appris la perte d'un être tendrement aimé, je n'étais tout à coup plus seul dans le monde. Mort. Il était mort, celui auquel m'unissait déjà une si parfaite ressemblance, à qui il avait suffi que quelques heures pour me conquérir et m'inspirer le désir de devenir son ami. « Un mercredi, a-t-il dit en me quittant, sinistre plaisanterie du hasard. » Ce mercredi, tandis que je venais tout heureux de le revoir, on me prenait pour son ombre et j'apprenais qu'il n'était plus. « Et de quoi est-il mort ? » demandai-je à l'homme, après avoir rassuré de mon mieux. « Oh, d'un affreux accident, monsieur. Il était sorti dès hier matin, malgré la tempête, et au moment où il passait devant une maison en construction, l'échafaudage, ébranlé par un vent furieux, a été tout à coup cédé et il s'est écrasé, tuant notre pauvre maître dans sa chute. Et savez-vous à quelle heure c'est arrivé ? Oh, il pouvait être 10 heures. Or, à 10 heures, ce même jour, j'avais vu venir se briser sur le trottoir, à 2 pas devant moi, une haute cheminée de briques. Cette fin tragique de M. Frémont survenait à l'instant où je voyais la mort de près. Simple coïncidence, sans doute. Et la subite vision de mon sosie se jetant au-devant de moi comme pour m'empêcher d'avancer. Une simple hallucination d'un esprit du trouble, sans doute, qui avait pris une terrible peur après coup, évidemment. Et pourtant, qui sait ? Au jour finissant, je me revois dans cette allée du Luxembourg où se fit notre connaissance, marchant à côté du pauvre disparu. Et je m'entends me dire « Oh, il y entre dans nos destinées d'étranges analogies. Qui sait si nous ne pouvons pas par quelques liens mystérieux, ça du nid. Oui, qui sait ? Qui sait ? Le ciel et la terre, Francis Horatio, cachent plus de mystères que n'en rêve votre philosophie. »